Bonjour, je suis content de me trouver devant vous pour partager ce moment autour de la parole. D'autant plus content de ce que nous avons déjà pu ensemble nous tourner vers le Seigneur. Et je crois vraiment que c'est un privilège que nous avons de pouvoir le louer ensemble. J'aimerais commencer par une devinette. S'il y en a qui trouvent, vous levez la main. Je suis un temps présent dans chaque culte, généralement placé à la fin de celui-ci. Temps relativement court, je suis précédé d'une invitation faite à chacun d'y participer librement. L'offrande, bonne réponse. Plutôt discret pendant le culte, hein, j'ai droit tous les mois à une page spéciale dans le bulletin afin de suivre mon évolution. Les adaptations sanitaires actuelles ont fait délaisser la corbeille qui passait entre les rangs pour être remplacée par une boîte placée à côté de la porte. Je suis l'offrande. Ce matin, à la demande du conseil, face aux enjeux de notre Église, on me demande d'aborder ce sujet de l'offrande. Excusez-moi. Reconnaissons-le, c'est un sujet que nous abordons peu souvent. Nous en parlons peu, et pourtant, l'argent est très présent dans nos vies, et je dirais même que c'est un sujet très présent dans nos Bibles. Lorsque j'étais enfant, on m'a appris à donner la dîme. 10% de mes revenus. Quand j'avais 10 ans, j'avais 10 francs d'argent de poche par semaine. Ça ne faisait pas beaucoup. Mais on m'a dit qu'il fallait le faire. Je l'ai fait. Était-ce mes parents? Était-ce mes moniteurs de l'école du dimanche? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Plus tard, je me suis marié avec Diane et elle avait dû entendre la même chose de ses parents, de son église. Bref, ça a été facile en nous mariant de continuer notre pratique. Mais je me suis souvent demandé comment faire si on n'a pas pris l'habitude quand on était enfant. Comment savoir qu'il faut donner et combien il faut donner si on n'en parle pas à l'église? Au moment d'en parler et de s'appuyer sur la Bible pour le faire, il vous vient peut-être cette question. Dieu a-t-il réellement dit qu'un chrétien devait donner la dîme? Si on est honnête, aucun verset du Nouveau Testament ne demande aux chrétiens de donner 10% de ses revenus à Dieu. C'est dit. Faut-il s'arrêter là sur ce constat? Je pense qu'il y aurait là une erreur. Et je crois qu'il faut nous méfier des questions qui commencent ainsi. Dieu a-t-il réellement dit? Il y en a une qui a mal tourné. Hein? Au chapitre 3 de la Genèse, le serpent a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et vous connaissez la suite. Et aujourd'hui, des questions similaires peuvent se poser. Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut attendre le mariage pour vivre sa sexualité? Dieu a-t-il réellement dit de venir au culte tous les dimanches? Face à ces questions, nous pouvons réagir selon deux tendances opposées. La première serait de dire « tututut ». On m'a dit de faire comme ça, tout le monde fait comme ça, je vais le faire aussi, je ne me pose pas de questions. La seconde tendance serait de dire, ah, il n'y a pas de verset qui le dit, donc je ne le fais pas. Si ce n'est pas dit clairement, je ne le fais pas. Je crois qu'aucune de ces deux voies n'est la bonne. Suivre Jésus-Christ, ce n'est pas suivre des règles. Parce que suivre des règles, c'est aller selon le danger de croire que c'est ces règles qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Or, la Bible nous le dit, et Monique l'a rappelé pendant le temps de louange, rien ne nous permet de nous rapprocher de Dieu sinon sa grâce, sa main tendue, imméritée, gratuite. Il n'y a rien de ce qu'on puisse faire qui nous permet de mériter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'amour de Dieu. Mais d'un autre côté, être chrétien, ce n'est pas non plus chacun fait ce qu'il veut. Le Nouveau Testament vient montrer le chemin du royaume de Dieu, vient montrer ce qu'est une vie qui plaît à Dieu. Et si nous saisissons réellement la main du Seigneur, alors nous voudrons lui faire plaisir. Et si nous voulons lui faire plaisir, ça a un impact sur ce que nous faisons, un impact sur nos comportements les plus pratiques, y compris dans notre vie matérielle. J'en reviens au sujet après cette parenthèse. Faut-il donner la dîme? Je l'ai dit, le Nouveau Testament ne le demande pas. L'Ancien Testament, par contre, est très clair sur le sujet. Par exemple, dans le Lévitique, la loi qui est donnée au peuple de Dieu, il est écrit « On mettra à part pour le Seigneur un dixième des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Si quelqu'un veut en racheter une partie, il payera au prêtre le prix normal, augmenté d'un cinquième. En ce qui concerne les bœufs, les moutons, les chèvres, une bête sur dix est marquée pour être mise à part pour le Seigneur. » Voilà, de tout ce qu'on produit, un dixième, on le met de côté pour Dieu. Mais je le disais, cette loi claire, limpide, il n'y a pas d'équivalent dans le Nouveau Testament. Et ça va même un peu plus loin parce que dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire où Jésus voit le don de la veuve dans le temple. Jésus, c'est dans Luc, enfin on le trouve dans plusieurs évangiles, dans Luc il est écrit, Jésus regarde autour de lui et il vit des riches qui déposaient leurs dons dans la salle du trésor du temple. Il vit aussi une veuve qui mettait deux petites pièces de monnaie. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous ont donné comme offrande de leur superflu. Mais elle, qui manque de tout, a donné ce qu'elle avait pour vivre. Ce texte est assez ambivalent, complexe à comprendre, en tout cas riche à comprendre. Parce que dans ce texte, à la fois, il y a ce côté où Jésus met en valeur le don. Le don de cette femme qui ne représente pas en valeur absolue beaucoup de choses, mais qui pour elle représente énormément. Et en tant que fils de Dieu, il a pleinement conscience de tout ce que ça représentait. Il le met en valeur. Et en même temps, si on regarde le contexte du texte, juste avant, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des spécialistes des Écritures qui se plaisent à se promener en beaux vêtements et qui aiment être salués sur les places publiques. » Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues, les places d'honneur dans les grands repas. Ils dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, font de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ça devrait faire tilt quand même quand on lit ce passage. Ils dévorent les biens des veuves. Ces religieux qui imposent à tous de donner 10%. Et pour les riches, ça ne représente pas grand-chose. Et pour la veuve, ça représente de son nécessaire. Je crois que dans cette histoire, il y a deux facettes qu'on peut retenir. La condamnation de celui qui oblige à donner et la mise en valeur de celle qui donne à Dieu malgré sa fragilité. Je crois que là, il y a deux écueils à éviter et un chemin à suivre pour nous. Une bonne direction. On n'est pas là pour dire aux autres ce qu'ils doivent donner, mais nous-mêmes, faire ce que nous avons à faire devant le Seigneur. J'irai plus loin. Jésus ne demande pas de donner la dîme, 10% de ce que nous gagnons. J'ai l'impression qu'il demande plus. Au jeune homme riche qui vient le voir, Jésus lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » À cet homme, il ne lui demande pas 10%, il ne lui demande pas une partie de ce qu'il a, il lui demande de se débarrasser de tout ce qu'il a. Ce n'est pas un enseignement pour tout le monde, mais quand même, ça montre ce qui est attendu du disciple. De même, il y a cet épisode où Jésus met en valeur le don exorbitant d'une femme qui verse sur ses pieds un parfum de très grand prix, geste gratuit, geste inutile aux yeux de certains. Jésus qui dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Je crois que ce que demande Jésus à ses disciples, ce n'est pas des règles à suivre, des quotas, des proportions à donner. C'est de donner sa vie dans toute la complexité que cette parole peut avoir pour nous. De nous abandonner à lui. Pour être complet sur le sujet de ce que dit la Bible au niveau des dons, on peut regarder un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Et on voit que dans ces Épîtres, il n'y a pas de commandement sur le financement des églises. Mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui soit étonnant en soi, parce que l'ecclésiologie dans le Nouveau Testament est assez peu développée. L'organisation de l'Église est quelque chose que le Nouveau Testament laisse pour les générations futures dont nous sommes, laisse une grande liberté pour la façon dont nous sommes organisés. Mais quand même, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on voit qu'il y a un encouragement à donner. Il y a l'invitation à partager avec nos frères et sœurs qui sont pauvres. Et on se souvient de la première église à Jérusalem qui surprenait les gens parce qu'ils partageaient, mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. Il y a l'appel de Paul qu'il fait à plusieurs reprises de rémunérer convenablement les responsables de l'Église. Il y a aussi cette invitation à soutenir l'activité missionnaire comme Paul qui a été soutenu par certains chrétiens d'autres églises ou des églises qui ont fait une collecte pour en aider d'autres en difficulté temporaire. Donc, il y a cet encouragement à donner et cet encouragement à donner, ce n'est pas des gestes privés. Ce sont les églises qui l'organisent, qui regroupent pour mieux organiser la distribution et faire en sorte que les choses soient faites de façon juste. Pour conclure sur ce sujet, sur l'enseignement du Nouveau Testament, je dirais que nous n'avons pas à parler de dîmes lorsque nous regardons l'enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait éviter le mot « collecte » qu'on utilise parfois pour désigner ce geste. Parler d'offrande me semble plus approprié. Offrande comme quelque chose qu'on donne à Dieu, qu'on donne en réponse à son amour, comme un acte d'adoration. Voilà ce qui, il me semble, correspond à ce que Jésus demande. Pourquoi donner ? Je racontais que, enfant, j'ai appris à donner, et je l'ai fait de façon automatique, sans trop savoir pourquoi. Et dans la vie, ça arrive régulièrement. On nous dit des choses, on nous demande de faire des choses quand on est enfant, quand on est jeune, et on ne comprend pas toujours ce qu'il faut faire. C'est plus tard, à force de les pratiquer, qu'on se rend compte de ce qu'elles apportent. Et je crois que tous les parents ont fait l'expérience de cela face à des enfants qui questionnent « Mais pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse ça ? » pourquoi est-ce qu'il faut que je me couche tôt? Pourquoi est-ce que je ne peux pas passer 5 heures de suite sur ma tablette, etc. Et en tant que parent, les parents le savent pourquoi. Mais ce n'est pas toujours facile à expliquer, ce n'est pas toujours facile de faire adhérer l'enfant. Je crois que le don fait partie de cela. On n'adhère pas forcément tout de suite, mais en le pratiquant, avec l'expérience, on se rend compte des bienfaits qu'il apporte. Je ne sais pas si vous y avez été attentif, quand on évoque le temps de l'offrande dans le culte, on accompagne toujours d'un verset. Et c'est surprenant de voir le nombre de versets de la Bible qui parlent de l'argent, qui parlent du don et de ce qui parle de ce que ça nous apporte. Parce que ça peut nous apporter tellement de choses différentes. Il y a tellement de facettes dans ce geste. Ce geste peut être un geste de reconnaissance où nous donnons pour remercier Dieu de ce que nous avons et qui nous vient de lui. Il peut être un geste de confiance quand on donne, comme c'est recommandé, les prémices, le début de nos revenus, au début du mois, confiance qu'il ne nous manquera rien à la fin. Ça peut être un acte de confession. Nous croyons que tout appartient à Dieu. Et en donnant, pratiquement, nous le proclamons. Ça peut être un acte de consécration. Je revendique d'appartenir à Dieu, tout entier, pas seulement mes chants le dimanche matin, et je le montre aussi dans ce que j'ai de plus matériel. Ça peut être un acte de liberté, de libération par rapport à l'argent. Jésus dit que personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donner, c'est un acte à travers lequel on se libère de l'emprise que peut avoir l'argent. C'est aussi un geste à travers lequel on vit sa libéralité, sa générosité. Donner, c'est aussi investir dans ce qui compte. Jésus, toujours lui, a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. » Quand on lit, relit, quand on parcourt la Bible et le Nouveau Testament en particulier, on se rend compte que le don est un excellent exercice spirituel qui nous fait grandir, une discipline qui est bonne pour nous. C'est bon pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'individus, mais c'est aussi quelque chose qui a une dimension collective. Parce que nous ne sommes pas juste des chrétiens assis les uns à côté des autres, nous sommes une église ensemble. Et Paul décrit cette église comme un corps, une unité. Et ce corps que nous formons construit des projets. Projets de bâtiment. Nous venons de terminer ce bâtiment et souvenons-nous, nous voulions un lieu pour accueillir. Un lieu pour avoir plus de place et accueillir ce que Dieu veut toucher à Clermont-Ferrand. Nous avons pris la décision ensemble d'investir pour cela, pour cet outil, pour accueillir au nom de notre Seigneur. D'autres projets, nous pouvons former le projet de ministère pastoral. Cette église, avant 2002, n'avait pas de pasteur qu'elle rémunérait. Et là encore, en se mettant ensemble, nous avons décidé de dégager un revenu pour un pasteur, une personne qui a du temps pour servir l'Église, qui a du temps pour se former, pour entretenir nos relations avec les autres églises. Et moins qu'un investissement ponctuel, c'est un pas que nous avons franchi ensemble et qui nous appelle à la fidélité. Un pas que nous avons franchi et que nous réfléchissons à franchir à nouveau, alors que nous réfléchissons à un deuxième ministère pour notre Église. puis, ensemble, nous formons d'autres projets, projets missionnaires que nous ne portons pas seuls, que nous portons à travers notre fédération d'église au Cameroun ou ailleurs, projets de formation de pasteurs, là aussi, que nous portons avec d'autres églises. Former des projets, c'est construire un budget et ensuite honorer ce budget, mais aussi assumer les imprévus qui découlent du projet. Et je crois que tout ça, c'est vivre concrètement le corps que nous formons. Paul écrit, nous sommes nombreux, alors que nous sommes nombreux, nous formons un seul corps, ensemble, par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Pourquoi donner ? Nous venons d'en parler. Combien donner ? La question est importante. Je lisais un livre et j'avais trouvé cet exercice proposé par un certain Pierre Bigot, cet exercice stimulant. Cet auteur invitait à prendre une feuille de papier et d'inscrire. L'année dernière, j'ai reçu, à travers mon salaire, mes allocations, etc., j'ai reçu tant d'argent. On fait le calcul. Et en dessous, on écrit, et l'an dernier, j'ai donné à l'église, aux œuvres, etc., tant d'argent. Et puis en dessous, on écrit, je suis chrétien. Et en faisant cet exercice, est-ce que je suis capable d'assumer, de signer cette feuille ? Est-ce que, en voyant ces chiffres écrits devant moi, je vois une cohérence globale dans ce qui est écrit ? Est-ce que ce que je donne montre à mes yeux que oui, je suis chrétien, que oui, comme nous l'avons chanté, Christ est roi des rois et roi de ma vie. Je crois que l'exercice de se poser périodiquement pour faire le point sur ce que je donne est un bon exercice. Étienne Lermeneau, qui a été secrétaire général de notre fédération, a écrit ceci dans un article consacré au sujet du don et de l'argent. Il part de ce que Jésus dit, que nous avons déjà lu concernant le don de la veuve. Jésus qui dit, je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous ont donné comme offrande de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné de ce qu'elle avait pour vivre. Et voici comment Étienne Lermeneau enchaîne. Au fond, dit-il, Jésus va plus loin que l'Ancien Testament et ne nous interpelle pas d'abord sur la manière dont nous utilisons l'argent, mais sur ce qui fonde notre existence. La question n'est pas de savoir si nous allons donner 8% ou 15% de nos revenus, mais qui est notre Dieu ? C'est pourquoi, écrit-il, je plaide que les dons que nous faisons soient d'abord vécus comme un acte d'adoration. Cela évitera de tomber dans un légalisme stérile, toujours prompt à se manifester dans ce domaine particulier. Et puisque cela est appelé à se traduire de façon concrète dans notre vie, il est indispensable d'établir un budget personnel qui traduise notre attachement à Dieu. Je vois deux manières complémentaires de le faire. Premièrement, mettre de côté la première partie de notre ou de nos revenus pour l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, décider d'un pourcentage significatif et éventuellement progressif qui traduise notre engagement. Voici les conseils que nous donne ce pasteur expérimenté. Déjà donné la première partie, l'expérience montre que si on veut donner ce qui reste, il ne reste jamais grand-chose. Mais elle montre aussi que si on donne d'abord, on constate à la fin qu'on a assez. La Bible regorge de personnes qui ont fait ces expériences. L'Église est remplie de personnes qui ont fait cette expérience. Étienne Lermeneau parle aussi d'un pourcentage significatif de ses revenus, suffisamment pour qu'il soit visible dans un budget, pour qu'il influence notre style de vie, pour qu'il soit quelque chose que nous soyons prêts à assumer lorsque nous l'écrivons noir sur blanc sur une feuille de papier devant nous. Et quelque chose qui est décidé. Paul invite chaque dimanche, le premier jour de la semaine, à mettre de côté chez lui ce que chacun aura économisé selon ses possibilités. Décider pour ne pas subir. Il parle aussi quelque chose de progressif, suivant nos moyens qui évoluent et suivant aussi notre sanctification de ce que, avec le temps, notre style de vie peut nous permettre de donner de plus en plus. J'aime bien cette notion de progressivité parce que je crois que l'offrande est un chemin. En discutant avec des chrétiens plus âgés que moi, en observant ceux qui sont plus généreux que moi, je vois beaucoup de joie. Joie de donner. Jésus a dit qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Joie de voir que nous n'avons manqué de rien et qu'en même temps, nous avons pu contribuer au royaume. Joie de se libérer du pouvoir de l'argent sur nous, de l'inquiétude qu'il fait peser. Aurais-je assez ? L'offrande est un chemin et je vous encourage à parcourir ce chemin tout au long de votre vie chrétienne. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous une petite histoire. Je vais partager pendant que Sylvain peut venir au piano pour un temps de réflexion tout à l'heure. Mais une petite histoire qui est parue dans un calendrier en 2001, le calendrier Vivre aujourd'hui. Il était une fois un homme qui n'avait rien. Et Dieu lui donna 10 bananes. Il lui en donna 3 pour sa nourriture. Il lui en donna 3 qu'il puisse vendre pour se procurer un abri contre le soleil ou la pluie. Il en donna 3 afin qu'en les monnayant, il ait de quoi se vêtir. Il lui en donna 1 qu'il puisse rendre à Dieu en signe de reconnaissance pour les 9 autres. L'homme mangea 3 bananes. Il en vendit 3 en vue de se trouver un abri contre le soleil ou la pluie. Il en échangea 3 contre les vêtements nécessaires. Puis, il regarda la 10e et elle lui parut plus belle et plus savoureuse que toutes les autres. Il savait que Dieu la lui avait donnée afin de pouvoir lui prouver sa gratitude en la lui rendant. Mais la 10e banane semblait tellement plus belle et plus savoureuse. Il se dit qu'après tout, Dieu possède déjà toutes les bananes du monde. Aussi mangea-t-il la 10e banane et rendit-il à Dieu la peau. Je vous invite à un temps de réflexion devant le Seigneur.